Jules Verne, César Cascabel, première partie, chapitre 16. Adieu au nouveau continent. Maintenant, il n'y avait plus qu'à exécuter le plan convenu pour se diriger vers l'Europe. À le bien considérer, ce plan offrait des chances de réussite, puisque les hasards de sa vie foraine amenaient la famille Cascabel à traverser la Russie et précisément en prenant par le gouvernement de Perm, le comte Serge Narkin n'avait certes rien de mieux à faire qu'à se joindre à elle pour le reste du voyage. Comment soupçonner que le condamné politique, évadé de Yakoutsk, se trouvait parmi les acolytes d'une troupe de saltimbanques? À moins d'une indiscrétion commise, le succès était assuré, et, arrivé à Perm, après avoir revu le prince Vassili Narkin, M. Serge agirait au mieux de ses intérêts. Puisqu'il aurait franchi l'Asie sans laisser derrière lui aucune trace que la police pût saisir, il se déciderait suivant les circonstances. À la vérité, si, contre toute probabilité, il était reconnu pendant son passage en Sibérie, cela pourrait avoir de terribles conséquences pour lui et aussi pour la famille. Pourtant, ni M. Cascabel ni sa femme ne voulaient tenir compte de ce danger, et s'ils avaient consulté leurs enfants à ce sujet, ceux-ci auraient approuvé leur conduite. Mais le secret du comte Narkin devait être sévèrement gardé. Ce serait uniquement M. Serge qui continuerait à être leur compagnon de voyage. Plus tard, le comte Narkin saurait certainement reconnaître le dévouement de ces honnêtes Français, bien que M. Cascabel ne voulût d'autre récompense que le plaisir de l'avoir obligé, tout en jouant la police moscovite. Par malheur, ce que ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer, c'est que leur plan allait être gravement compromis dès le début. En débarquant sur l'autre rive du détroit, ils ne manqueraient pas d'être exposés au plus grand péril et arrêtés par les agents russes de la Sibérie. En effet, le lendemain même du jour où ce projet avait été formé, deux hommes causaient en se promenant à l'extrémité du port dans un endroit où leur conversation ne pouvait être entendue de personne. C'étaient ces deux agents, dont il a été question, et que la présence de M. Serge parmi les hôtes de la Belle Roulotte avait surprise et intrigué. Établis à Sitka depuis plusieurs années, et chargés de la surveillance de la province au point de vue politique, leur mission, on le sait, consistait à observer les agissements des réfugiés aux environs de la frontière colombienne, à les signaler au gouverneur de l'Alaska et à mettre en état d'arrestation ceux qui tentaient de la franchir. Or, ce qui était grave, c'est que, s'ils ne connaissaient pas le comte Narkin personnellement, ils possédaient son signalement qui leur avait été donné à l'époque où le prisonnier avait pu s'échapper de la citadelle de Yakoutsk. Lors de l'arrivée de la famille Cascabel à Port Clarence, ils furent très étonnés à l'aspect de ce Russe, qui n'avait ni la tournure ni les manières d'un artiste forain. Pourquoi se trouvait-il parmi cette troupe de saltimbanques, laquelle, après avoir quitté Sacramento, suivait un si étrange itinéraire pour revenir en Europe? Leurs soupçons une fois éveillés, ils s'enquirent, ils observèrent assez adroitement pour ne point attirer l'attention, et en rapprochant M. Serge du signalement qui concernait le comte Narkin, leurs doutes se changèrent en certitude. « Oui, c'est bien le comte Narkin, » disait l'un de ses agents. « Évidemment, il rôdait sur les frontières de l'Alaska en attendant que l'annexion fût faite lorsqu'il a rencontré cette famille de battleurs qui lui a porté secours. Et maintenant, le voici qui se dispose à passer en Sibérie avec elle. » Rien de plus exact, et si M. Serge n'avait pas eu tout d'abord le projet de se hasarder au-delà de Port Clarence, les deux agents n'éprouvèrent aucune surprise lorsqu'ils apprirent qu'ils s'étaient décidés à suivre la Belle Roulotte en Sibérie. « Voilà une bonne chance pour nous, » répondit le second agent. « Le comte aurait pu rester ici, c'est-à-dire sur une terre américaine, et nous n'aurions pas eu le droit de l'arrêter. » Tandis que, dès qu'il aura mis le pied sur l'autre côté du détroit, reprit le premier, il sera sur le territoire russe, et il ne pourra plus nous échapper, car nous serons tout portés pour le recevoir. C'est une arrestation qui nous vaudrait honneur et profit, répliqua le second agent. Quel coup de maître pour notre rentrée. Mais comment nous y prendre? Rien de plus simple. La famille Cascabel ne tardera pas à partir, et comme elle ira par le plus court, il n'est pas douteux qu'elle ne gagne le port de Numana. Eh bien, nous y arriverons avant ou en même temps que le comte Narkin, et nous n'aurons plus qu'à lui mettre la main sur l'épaule. Soit, mais j'aimerais mieux le devancer à Numana, afin de prévenir la police du littoral qui nous prêterait main forte au besoin. C'est ce que nous ferons, à moins d'événements imprévus, reprit le premier agent. Ces saltimbanques seront forcés d'attendre que la glace soit assez solide pour porter leur voiture, tandis qu'il nous sera très facile de prendre les devants. Restons donc à Port Clarence et continuons d'observer le comte Narkin sans qu'il soupçonne rien. S'il doit se défier des fonctionnaires russes qui quittent l'Alaska pour rentrer en Europe, il ne peut supposer que nous l'ayons reconnu. Il partira, nous l'arrêterons à Numana, et nous n'aurons plus qu'à le conduire sous bonne escorte à Petropavlovsk ou à Yakoutsk. Et au cas où ces bateleurs voudraient le défendre, fit observer le second agent, il leur en coûterait cher d'avoir favorisé la rentrée en Russie d'un évadé politique. Ce plan, très simplement conçu, devait réussir, puisque le comte Narkin ignorait qu'il eût été reconnu, et puisque la famille Cascabel ne savait pas qu'elle fût l'objet d'une surveillance spéciale. Ainsi, ce voyage, si heureusement commencé, risquait de mal finir pour M. Serge et ses compagnons. Et pendant que se tramait cette machination, tous étaient à la pensée qu'ils ne se sépareraient pas, qu'ils se dirigeraient ensemble vers la Russie. Quelle joie en éprouvaient plus particulièrement Jean et Cayette. Il va sans dire que les deux agents avaient gardé pour eux le secret qu'ils allaient exploiter. Aussi, personne à Port Clarence n'eût pu s'imaginer que, parmi les hôtes de la belle roulotte, il y eut un personnage de l'importance du comte Serge Narkin. Il était encore difficile de fixer le jour du départ. On suivait avec une extrême impatience les modifications de cette température, véritablement anormale, et ainsi que le déclarait M. Cascabel, jamais il n'avait si vivement désiré qu'il fît un froid à fendre des pierres. Pourtant, il importait d'être de l'autre côté du détroit avant que l'hiver eût définitivement pris possession de ces parages. Comme il ne serait dans toute sa rigueur que vers les premières semaines de novembre, la belle roulotte aurait le temps de gagner les territoires méridionaux de la Sibérie. Là, dans quelques bourgades, on attendrait la saison favorable pour se diriger vers les monts Oural. En ces conditions, Vermouth et Gladiator pourraient, sans trop de fatigue, suffire à la traversée des steppes. La famille Cascabel arriverait à temps pour prendre part à la foire de Perm, c'est-à-dire en juillet de l'année prochaine. Et toujours ces glaçons qui continuaient à remonter vers le nord, emportés par le courant chaud du Pacifique. Toujours une flottille d'icebergs qui dérivait entre les rives du détroit, au lieu d'un immobile et solide icefield. Cependant, le 13 octobre, on constata un certain ralentissement dans cette dérive. Vers le nord, très probablement, s'était accumulée une embâcle qui lui faisait obstacle. En effet, aux dernières limites de l'horizon, apparaissait une ligne continue de sommets blancs qui indiquait la prise totale de la mer Arctique. La réverbération blafarde de la banquise emplissait l'espace, et la solidification complète ne tarderait pas à se produire. Entre-temps, Monsieur Serge et Jean consultaient les pêcheurs de Port Clarence. Plusieurs fois déjà, tous deux avaient cru que le passage pouvait être tenté. Mais les marins, qui connaissaient bien leur détroit, avaient conseillé d'attendre. « Ne vous pressez pas, disaient-ils, laissez faire le froid. Il n'a pas encore été assez vif pour former l'icefield. Et puis, quand bien même la mer serait prise de ce côté du détroit, rien ne prouve qu'elle le serait de l'autre côté, surtout dans les parages de l'îlot Diomède. » Et le conseil était sage. « L'hiver n'est pas précoce, cette année, » fit un jour observer M. Serge à un vieux pêcheur. « Oui, il y a du retard, » lui répondit cet homme. « Raison de plus pour ne point vous hasarder, avant d'être certain que le passage est possible. D'ailleurs, votre voiture, c'est plus lourd qu'un piéton, et cela demande plus de solidité. » Attendez qu'une bonne couche de neige nivelle tous les glaçons et vous pourrez alors rouler comme sur une grande route. De plus, vous rattraperez vite le temps perdu sans vous exposer à rester en détresse au milieu du détroit. Il fallait bien se rendre à ces raisonnements venant de gens pratiques. Aussi M. Serge s'appliquait-il à calmer son ami Cascabel, qui se montrait le plus impatient de toute la troupe. L'important surtout, c'était de ne point compromettre par trop de hâte le voyage et les voyageurs. « Voyons, lui disait-il, un peu de patience. Votre belle roulotte n'est point un bateau. Si elle était prise dans une dislocation des glaces, elle s'en irait bel et bien par le fond. La famille Cascabel n'a pas besoin d'accroître sa célébrité en allant s'engloutir dans les eaux du détroit de Béring. » « En serait-elle accrue, d'ailleurs ? » lui répondit en souriant le glorieux César. Au surplus, Cornélien intervint, disant qu'elle n'entendait point qu'une imprudence fût commise. « Hé, c'est pour vous que nous sommes pressés, monsieur Serge !» s'écria monsieur Cascabel. « Soit, mais moi je ne le suis pas pour vous, » répondit le comte Narquine. Malgré l'impatience générale, Jean et Cayette ne trouvaient pas que les jours fussent longs à passer. Jean continuait à instruire Cayette. Déjà, elle comprenait et parlait le français avec facilité. Entre eux, il n'y avait plus de difficulté pour s'entendre, et puis Cayette se sentait si heureuse au milieu de cette famille, si heureuse près de Jean qui l'entourait de tant de soins. Décidément, il aurait fallu que monsieur et madame Cascabel eussent été aveugles pour ne point reconnaître quels sentiments elle aspirait à leur fils. Aussi commençait-il à s'en inquiéter. Il savait ce qu'était monsieur Serge et ce que serait un jour Cayette. Ce n'était plus la pauvre indienne qui allait mendier à Sitka quelques places de servante, c'était la fille adoptive du comte Narquine. Et Jean se préparait de grands chagrins pour l'avenir. « Après tout, disait monsieur Cascabel, monsieur Serge a des yeux pour voir, il voit de quoi il retourne. Eh bien, s'il ne dit rien, Cornélia, nous n'avons rien à dire. » Un soir, Jean demanda à la jeune fille, « Es-tu contente, petite Cayette, d'aller en Europe ?»« En Europe, oui, répondit-elle. Mais je le serais bien davantage si j'allais en France. Tu as raison, c'est un beau pays que le nôtre, et un bon pays. S'il pouvait jamais devenir le tien, tu t'y plairais. Je me plairais partout où serait ta famille, Jean, et mon plus grand désir est de ne jamais vous quitter. Chère petite Cayette, c'est bien loin la France ? Tout est loin, Cayette, et surtout quand on a hâte d'arriver. Mais nous arriverons. Trop tôt, peut-être.
Pourquoi, Jean ?
Parce que tu resteras en Russie avec monsieur Serge. Si nous ne nous séparons pas ici, il faudra nous séparer là-bas. Monsieur Serge te gardera, petite Cayette. Il fera de toi une belle jeune fille. Et nous ne te verrons plus.
Pourquoi dire cela, Jean ? Monsieur Serge est bon et reconnaissant. Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est vous, c'est bien vous. Si vous n'aviez pas été là, qu'aurais-je pu faire pour lui ? S'il vit, c'est à ta mère, c'est à vous tous qu'il le doit. Penses-tu que monsieur Serge puisse l'oublier ? Pourquoi veux-tu, Jean, si nous nous séparons ? Pourquoi veux-tu que ce soit pour toujours ?
Petite Cayette, je ne le veux pas, répondit Jean, qui ne pouvait contenir son émotion.
Mais j'ai peur. Ne plus te voir, Cayette, si tu savais combien je serais malheureux. Et puis ce n'est pas seulement te voir que j'aurais voulu. Ah, pourquoi ma famille ne peut-elle te suffire, puisque tu n'as plus de parents ? Mon père et ma mère t'aiment tant.
Pas plus que je ne les aime, Jean.
Et aussi mon frère et ma sœur. J'espérais qu'ils auraient été une sœur et un frère pour toi.
Ils le seront toujours.
Et toi, Jean ?
Moi aussi, petite Cayette, oui.
Un frère, mais plus dévoué, plus aimant.
Et Jean n'alla pas au-delà. Il avait pris la main de Cayette, il la pressait, puis il s'en fut, ne voulant pas en dire davantage. Cayette, tout émue, sentait son cœur battre bien fort, et une larme s'échappait de ses yeux.
À la date du 15 octobre, les marins de Port Clarence avertirent M. Serge qu'il pouvait se préparer au départ. Le froid s'était vivement accentué depuis quelques jours. Maintenant, la moyenne de la température ne s'élevait pas à 10 degrés centigrades au-dessous de zéro. L'icefield paraissait être absolument immobile. On n'entendait même plus rien de ces craquements significatifs qui se produisent lorsque la cimentation n'est pas complète. Il était probable que l'on ne tarderait pas à voir arriver quelques-uns de ces indigènes asiatiques qui traversent le détroit pendant l'hiver et font un certain commerce entre Noumana et Port Clarence. C'est même une route assez fréquentée, parfois. Il n'est pas rare que des traîneaux, attelés de chiens ou de rennes, aillent d'un continent à l'autre, enlevant en 2 ou 3 jours les 20 lieues qui séparent les deux rives entre les points les plus rapprochés du détroit. Il y a donc là un passage naturel qui s'ouvre au commencement et éclot à la fin de l'hiver, c'est-à-dire praticable pendant plus de 6 mois. Seulement, il convient de ne partir ni trop tôt ni trop tard, afin d'éviter les catastrophes épouvantables qui résulteraient d'une dislocation du champ de glace. En prévision du voyage à travers les territoires sibériens, jusqu'au jour où la belle roulotte s'arrêterait pour hiverner, M. Serge avait fait acquisition à Port Clarence de divers objets indispensables à un cheminement pendant les grands froids, entre autres plusieurs paires de ces raquettes que chaussent les indigènes en guise de patins et qui leur permettent de franchir rapidement de vastes espaces glacés. Ce n'était pas à des fils de saltimbanques qu'il aurait fallu un long apprentissage pour s'en servir. En quelques jours, Jean et Sandre étaient devenus d'habiles raqueteurs, en s'exerçant sur les criques solidifiées le long de la grève. M. Serge avait aussi complété l'assortiment de pelleterie achetée au Fort Yukon. Il ne s'agissait pas seulement de se préserver du froid en revêtant ses chaudes fourrures, il fallait en garnir intérieurement les compartiments de la belle roulotte, en couvrir les couchettes, en tapisser les parois et le plancher, afin de maintenir la chaleur développée par le poêle de la cuisine. D'ailleurs, on ne saurait trop le répéter, le détroit, une fois traversé, M. Cascabel comptait passer les mois les plus rigoureux de l'hiver dans une de ces bourgades qui ne manquent point au district du sud de la Sibérie méridionale. Enfin, le départ fut fixé au 21 octobre. Depuis 48 heures, le ciel très brumeux venait de se fondre en neige. Une vaste couche blanche faisait du large icefield une plaine uniforme. Les pêcheurs de Port Clarence affirmaient que la solidification devait s'étendre d'une rive à l'autre. Du reste, on ne tarda pas à en être certain. Quelques trafiquants venaient d'arriver du port de Noumana et leur voyage s'était effectué sans obstacle et sans danger. Le 19, M. Serge apprit que 2 des agents russes qui se trouvaient à Port Clarence n'avaient pas voulu attendre plus longtemps pour gagner le littoral sibérien. Ils étaient partis le matin même avec l'intention de faire halte sur l'îlot Diomède pour achever le surlendemain le passage du détroit. Ce qui fit faire à M. Cascabel cette réflexion. « Voilà 2 gaillards qui sont plus pressés que nous. Ils auraient bien pu attendre, que diable, et nous aurions volontiers voyagé de conserve. » Puis il se dit que sans doute ses agents avaient craint d'être retardés en accompagnant la belle roulotte, qui ne pourrait aller rapidement sur cette couche de neige. En effet, bien que Vermouth et Gladiator eussent été ferrés à glace, le lourd véhicule emploierait plusieurs jours pour atteindre le littoral opposé, en tenant compte du repos qui serait pris sur l'îlot Diomède. En réalité, si ces 2 agents avaient préféré devancer le comte Narkin, c'était dans le but de prendre toutes les mesures nécessaires à son arrestation. L'heure du départ avait été fixée au soleil levant. Il fallait profiter de quelques heures de jour que le soleil donnait encore. Dans 6 semaines, aux approches du solstice du 21 décembre, ce serait la nuit perpétuelle qui envelopperait ces contrées traversées par le cercle polaire. La veille du départ, un thé offert par M. et Mme Cascabel réunit sous un hangar bien clos, disposé pour cette fête, les notables de Port Clarence, fonctionnaires et pêcheurs, et aussi plusieurs chefs de familles esquimaudes qui s'intéressaient aux voyageurs. La réunion fut très joyeuse, et Clou de Girofle l'égaya par les plus drôlatiques pantomimes de son répertoire. Cornélia avait confectionné un punch brûlant dans lequel elle avait mélangé le sucre. Elle n'avait point ménagé l'eau-de-vie. Cette boisson fut d'autant mieux goûtée que les invités, en rentrant chez eux, allaient être saisis par un froid extrêmement vif, un de ces froids qui, pendant certaines nuits d'hiver, semblent tomber des dernières limites de l'espace étoilé. Les Américains burent à la France, les Français à l'Amérique. Puis on se sépara après force poignées de main échangées avec la famille Cascabel. Le lendemain, les deux chevaux furent attelés à 8 heures du matin. Le singe John Bull avait pris place dans la bâche, où il était plongé jusqu'au museau sous les fourrures, tandis que Wagram et Marengo gambadaient autour de la belle roulotte. À l'intérieur, Cornélia, Napoléon et Cayette s'étaient hermétiquement renfermés pour vaquer à leurs occupations habituelles, le ménage à faire, le poêle à entretenir, les repas à préparer. Monsieur Serge et Monsieur Cascabel, Jean, Cendre et Clou, les uns à la tête de l'attelage, les autres marchant en éclaireur, devaient veiller à la sécurité du véhicule en évitant les mauvais passes. Enfin, le signal du départ fut donné et, à ce moment, retentirent les hurrahs de la population de Port Clarence. Un instant après, les roues de la belle roulotte faisaient grincer la couche neigeuse de l'Icefield. Monsieur Serge et la famille Cascabel avaient définitivement quitté la terre d'Amérique.